Merci Gennaro. Aujourd'hui, moi, je vous parlerai plutôt des aspects pratiques. Je laisserai à Anna parler vraiment du fond, de ce qui nous a rapproché, vraiment l'étude scientifique qui a rapproché nos deux institutions. Moi, je voudrais vraiment revenir sur, parce que je crois que ça peut être intéressant pour vous, pour votre future profession, revenir sur les conditions un petit peu de ce qu'est une collaboration entre deux grandes institutions. Le point de départ, on y voit toujours beaucoup d'avantages, ne serait-ce que le service financier qui voit une division des coûts, et ça paraît comme le gros avantage. Mais je crois qu'aussi, enfin, l'expérience montre, j'en ai pas énormément d'expérience, mais j'ai fait quand même d'autres collaborations, c'est souvent très périlleux une collaboration. Parce qu'il y a énormément de contraintes techniques, ne serait-ce que par exemple les contraintes liées au calendrier des expositions, qui font qu'il faut que souvent l'un des deux cède par rapport à une programmation. Certains préfèrent les mois d'été, d'autres les mois d'hiver. Bref, les volontés ne sont pas toujours les mêmes. Et puis aussi, et surtout pour nous qui assumons les fonctions de commissaire scientifique, il n'est pas toujours facile de s'entendre bien avec l'autre, tout simplement, et avec une autre institution qui n'a pas forcément la même pratique de l'histoire de l'art, qui ne voit pas forcément de la même façon le sujet qu'on doit traiter. Et c'est vrai qu'une collaboration, je crois, pour moi en tout cas, c'est l'avis que j'ai un peu, c'est au départ une difficulté qu'il va falloir surmonter. Alors Raphaël, et je ne dis pas parce qu'Anna est là, mais Raphaël est peut-être le contre-exemple, à mon sens, parce que, mais peut-être qu'on aura après une très bonne aussi, très belle présentation du rapport entre Florence et Paris. Mais je crois que ça a été vraiment l'un des. C'est un projet sur lequel on s'est vraiment bien retrouvé et on a pu très bien travailler, je crois justement parce que Raphaël était un élément, un projet parmi d'autres. Depuis 2007, les directions du Louvre et du Prado se sont, j'irais, vraiment rapprochées, alors qu'auparavant, on n'avait pas tant de liens que cela, en dehors des prêts classiques, je dirais. Et Raphaël s'intègre vraiment dans une succession de projets passés et à venir, enfin qui ont été déterminés à partir de 2007, donc entre l'actuel président-directeur Miguel Sugassa et Henri Loiret à cette époque-là, et je pense que ça va évidemment se poursuivre avec Jean-Luc Martinez. Souvenez-vous, il y a eu cette exposition sur le paysage classique, organisée donc, c'était un partenariat Louvre-Prado, mais ça, l'exposition était au Grand Palais. Il y a eu donc Raphaël après, et je sais qu'il y a d'autres projets à venir, hein. Peut-être quelque chose de la Tour probablement, et aussi Velázquez, qui est un projet qui, je dirais, voilà, il y a différents types de projets qu'on a entre les deux institutions, à la fois des projets où il y a des points forts de la collection, Raphaël, c'est la belle illustration, dans une très très riche collection, donc on les rassemble, et d'autres projets où ce sont des artistes un petit peu très significatifs d'une collection et que l'on fait connaître à notre partenaire. Alors Raphaël, donc, c'est, je dirais, la complémentarité de nos collections qui explique ce projet. Je reviens, mais je sais que certains d'entre vous ont visité l'exposition ensemble, mais voilà, deux collections absolument exceptionnelles en Raphaël. Celle du Prado, une dizaine d'œuvres de Raphaël qui parcourt pratiquement toute la carrière de Raphaël, hein. Je vous la montre très brièvement, mais les points forts de cette collection du Prado, ce sont des tableaux tardifs, des grands retables possédés par l'Espagne grâce aux liens politiques avec la péninsule italienne. Voilà le royaume de Naples. Effectivement, je ne voulais pas entrer trop dans les détails pour toi, Gennaro. Et puis, une très belle série, surtout de Madone, hein, très, très remarquable et qui est vraiment un point, une originalité, une force, je crois, de la collection du Prado. Du côté, et il y a aussi d'autres choses, voilà, très, très intéressantes qui sont un des points forts de l'étude qu'on a menée pendant ces années passées pour ce projet. Des tableaux d'atelier, notamment une répétition de la très grande transfiguration de Raphaël conservé au Vatican, et un autre tableau, le Nonnini et Tangere, donc tableau aussi très discuté par la critique entre Raphaël, son atelier, Giulio Romano, Penny. Bref, du côté du Louvre, c'est un peu la même, une collection très comparable, je dirais. On a environ 16 œuvres. Là aussi, on peut parcourir depuis la jeunesse jusqu'aux années de maturité, mais ce sont davantage, je dirais, les années de maturité qui sont les plus représentées. Là aussi, pour des raisons politiques, les bonnes relations entretenues entre la Cour de France et la Cour pontificale de Léon X expliquent l'arrivée de ces quatre tableaux en 1518, et puis le collectionnisme royal qui s'est toujours développé, poursuivi, hein. Comme le disait Gennaro, on a acquis l'ange il y a très peu de temps, hein, ce fragment d'un grand retable, et aussi une très belle collection d'œuvres de l'atelier. de Raphaël, qui datant de la période romaine, hein, le moment où Raphaël est actif à Rome, donc à partir entre 1508 et sa mort en 1520. Donc ils forment vraiment un ensemble donc, d'une trentaine d'œuvres, nos deux musées réunis, et je dirais, dont le point fort est vraiment la période tardive. C'est ça, je dirais, notre grande chance. Et c'est pour ça, je dirais, que voilà comment on a mis un petit peu ce projet en place. Il est né de cette constatation que nos collections étaient complémentaires. On a pensé pendant un moment, dans les discussions, les préliminaires, est-ce qu'on fait une grande rétrospective, Raphaël ? Mais bon, ça, en quelque sorte, chacun l'avait fait un petit peu dans son pays pour les grandes manifestations, les grandes célébrations en 1983. Par ailleurs, c'était très difficile, pratiquement impossible de présenter. C'était presque trop vaste, trop difficile à traiter, même si on s'était donné un grand laps de temps. Et donc, rapidement est venue l'idée de se focaliser sur le point fort de nos collections, avoir le temps de vraiment bien les étudier, donc se concentrer sur ces années tardives. Et même, on s'est encore, je dirais, concentré encore davantage en prenant vraiment comme chronologie le pontificat de Léon X Médicis, donc entre 1513 et quelques années 1523, après la mort de Raphaël, pour vraiment traiter des années les plus brillantes de Raphaël, celles où il est au sommet de sa carrière, celles où il doit assumer énormément de tâches très différentes les unes des autres, et aller après la mort de Raphaël pour justement traiter de l'héritage de Raphaël auprès de ses deux plus fidèles assistants, Gianfrancesco Penni et Giulio Romano. Alors l'équipe de travail, enfin, on a mis en place une équipe. Alors le départ, évidemment, une fois que les directeurs s'entendent bien, ça c'est le point de départ, mais après il faut qu'en dessous ça suive. Donc il y a une très bonne entente entre Miguel Falomir, qui est le responsable de la peinture, notamment de la Renaissance, mais de la peinture plus largement française, italienne, de la période moderne, et moi-même, donc, qui suis responsable de l'Italie du XVIe siècle. Et après, il y a eu le choix aussi de deux commissaires scientifiques, deux personnalités très, très respectées qui ont beaucoup travaillé sur cet artiste-là. En l'occurrence, Tom Henry, qui lui avait peut-être une connaissance surtout sur le 15e siècle, la fin du 15e siècle, et une très bonne connaissance de la peinture, qui avait participé à l'exposition à Londres sur la jeunesse de Raphaël. Et de l'autre côté, Paul Joannides, un peu plus âgé, plus de bouteilles, et qui était lui un vrai spécialiste de dessin, et qui avait beaucoup travaillé sur Raphaël. Donc ça semblait vraiment un duo. D'abord, ils s'entendaient bien. On les appréciait aussi, je dirais, à la fois humainement et scientifiquement. Et voilà, ça semblait une base de travail la plus profitable pour ce projet. Alors évidemment, on voulait aussi mettre en place un renouvellement de l'étude sur Raphaël, non seulement avec l'aide de ses commissaires scientifiques, mais aussi réétudier vraiment d'un point de vue vraiment scientifique, avec l'aide des nouvelles technologies des laboratoires, réétudier nos collections de Raphaël. Et donc, dès le début, dans l'équipe, ont été impliqués les différents laboratoires, ceux, principalement ceux du Prado et ceux du avec lequel travaille le musée du Louvre. Alors, du Prado, justement, Anna vous en parlera, puisqu'elle appartient au laboratoire et qu'elle a complètement dirigé ses travaux sur la collection de Raphaël. Au Louvre, on travaille donc avec le Centre de recherche et de restauration des musées de France, le C2RMF, et je voudrais quand même citer Gilles Bastian, Myriam Evenot, Bruno Motin et Elisabeth Raveau, qui ont accompli un très beau travail d'études et dont on voit d'ailleurs le bilan croisé dans le catalogue d'exposition. Autre peut-être idée que je voulais développer, notre projet on a décidé vraiment d'étudier les dernières années parce qu'aussi on était conscient, enfin notre projet s'inscrit aussi dans une succession d'autres projets. Et dans les dernières années, la jeunesse de Raphaël a été très étudiée. Je vous parlais de l'exposition de Londres en 2004-2005. Raphaël d'Urbino à Rome, donc il traite vraiment de la jeunesse. À Urbino même, il y a eu une exposition en 2009, si j'ai bonne mémoire. Il y a eu une exposition en 1999 qui essayait de traiter des années romaines de Raphaël. Raphaël est aussi le classico di Roma, mais qui, faute d'obtenir des prêts de peinture, c'est essentiellement consacré à la gravure et au dessin. Donc en réalité, il n'y avait jamais eu de réunion des peintures tardives de Raphaël. Il fallait vraiment, je crois, la force de frappe et les collections initiales du Prado et du Louvre pour rendre ce projet réalisable dans les mentalités? Parce que je crois que jusqu'à présent, personne, tout le monde se disait, non, on est capable de faire que des choses dans notre propre maison, comme on avait fait en 83, Florence a fait dans son coin, Rome, chacun fait avec ses propres collections. Et je crois qu'il fallait vraiment cette réunion de nos deux collections pour légitimer ce projet, pour dire, on est capable, il faut qu'on le fasse, parce que ça n'a jamais été, ce sont des tableaux qui posent problème, comme Anna vous l'expliquera, qu'on comprend mal encore aujourd'hui, il faut qu'on comprenne mieux ces années de maturité de Raphaël. Et je crois que ça a donné beaucoup de force, de conviction, le fait qu'on se lie sur ce projet. Alors, on a décidé de ce projet en 2007, il a eu lieu en 2012, on a donc eu 5 ans, en fait, 5 ans d'un long travail, un petit peu dans différents domaines. 5 ans durant lesquels, justement, on a eu l'occasion, l'opportunité de réétudier nos collections. Alors, je n'ai pas de photos d'Anna en train de faire ses radios, mais j'ai un peu quelques photos de nos groupes de travail. Là, c'est justement des journées d'études qui ont été organisées en 2010 et 2011 au musée du Louvre. On s'est un peu partagé les réunions internationale. Donc, c'est un travail évidemment qui s'est fait grosso modo avec le commissariat scientifique et les laboratoires, mais on l'a ouvert évidemment à tous les grands autres spécialistes. Et c'est un peu le fruit de ce catalogue et les conclusions du catalogue sont quand même éclairées par les discussions qu'on a eues avec d'autres collègues et qu'on a pu régulièrement réunir autour de nos œuvres. Alors, je vous montre ici quelques images, notamment une très belle journée où on avait pu décadrer tous nos Raphaël avec la collection de dessins d'ailleurs, qui est au Louvre, on a une belle collection aussi de dessins de Raphaël, et où on présentait un peu le bilan de nos analyses de laboratoire. Et c'était vraiment l'occasion d'avoir de très belles discussions sur nos collections et des problèmes que posaient les tableaux de Raphaël. Anna avait fait aussi beaucoup de présentations de l'étude de ses propres tableaux du Prado. Alors, vous voyez les questions qu'on se pose. L'ambition, mais Anna y reviendra, c'est vraiment de comprendre le fonctionnement de l'atelier et comment se passe la création dans l'atelier de Raphaël. Donc, comparer les images de laboratoire avec les dessins, la peinture, bref, voilà. Je vous en montre quelques détails, mais vous voyez des imageries qui nous ont permis de vraiment avancer sur la technique picturale, notamment trouver enfin comment était préparé le Balthazar Castiglione avec un très beau dessin merveilleux à la sanguine du reste il fallait pas d'image pour le voir, il suffisait juste de bons yeux, mais c'est seulement à ce moment-là qu'on se posait beaucoup de questions qu'on l'a découvert. 5 ans aussi pendant lesquels on s'est posé la question de l'opportunité aussi de la restauration de nos tableaux. C'est souvent une chose qui est quand même liée aux expositions. J'en profite pour d'ailleurs, non pas régler des comptes, mais rappeler certaines choses. On lit dans la presse aujourd'hui, parfois dans la mauvaise presse, que aujourd'hui les conservateurs sont terribles et restaurent uniquement pour des raisons commerciales, pour aider leurs expositions. Je tiens à rappeler quand même que c'est une vieille pratique. Au contraire, les expositions servent justement à montrer au grand public ce que l'on fait et qui est naturellement caché parce que c'est on fait ça dans les laboratoires. Et je rappellerai l'exposition de 1983-84, Raphaël, donc au Louvre et au Grand Palais, exposition pour laquelle il y a eu énormément de restauration, pratiquement toute la collection. On nous a seulement laissé les plus difficiles à restaurer. Le Saint-Michel, qui est un tableau dans un état de conservation très très... je vous montre des images. Vous voyez que la planche, l'ancienne planche est pratiquement complètement détruite et donc c'est un tableau assez altéré. On s'est posé la question de l'opportunité de ces restaurations. Du côté du Louvre, le Grand Saint-Michel. Du côté du Prado, le Spasimo di Sicilia. Le Prado a foncé, il y allait, il a restauré son tableau. Nous, on s'est posé beaucoup de questions, on a fait des tests. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Il y a un très beau bleu lapis-souille, on le voit ici. On a fait quelques petits tests. Mais finalement, c'était trop compliqué dans les délais de l'exposition. On n'a pas voulu s'engager dans quelque chose d'aussi complexe. Et on a préféré remettre, j'espère que ça sera l'un des grands projets des prochaines années. On a néanmoins travaillé sur certains de nos tableaux. Je vous montre par exemple des choses redécouvertes un petit peu, les revers peints de certaines de notre petite Sainte Famille qu'on a pu restaurer, dont on a pu retrouver un petit peu l'intégrité, le dispositif assez complexe de ce tableau, qui était un petit tableau de dévotion avec un couvercle, et l'ensemble était une pièce, en quelque sorte, extrêmement précieuse. Alors, deux mots aussi des difficultés de ce projet. C'est un Raphaël, évidemment, il y avait la force de frappe du Prado et du Louvre, des collections. Il y a aussi, il ne faut pas se le cacher, ce qu'on appelle aujourd'hui le loan power. Le pouvoir, évidemment, on exerce, les gens se disent, oh là, si on se met à mal avec le Prado, quand même, il y a les relations diplomatiques. Et puis, c'est, ils vont nous refuser des prêts. Peut-être que ça a joué, mais je dirais à la marge, ça. Je crois que les gens ont vraiment été convaincus de l'intérêt de prêter leurs œuvres. Néanmoins, les œuvres de Raphaël sont souvent des œuvres qui bénéficient d'un prestige considérable et qui sont souvent même l'image d'un musée. Il suffit de penser à au tableau que vous voyez à dos, la Madone de Drèze, qui est en fait reproduite sur tous les catalogues du musée, qui est souvent l'image que l'on voit à l'extérieur dans la ville. Et comment emprunter, c'est comme prêter la Joconde du Louvre. Comment sortir de tels tableaux? Ça a été l'une de nos difficultés, je crois, quand même, pour organiser, et le fait que nous n'avons bien évidemment pas pu obtenir tous ces prêts, car la Transfiguration, c'est aussi un tableau mythique, le dernier tableau de Raphaël, il est très grand, c'est un tableau pratiquement intransportable, voilà, ce sont d'immenses chefs-d'œuvre qui ne doivent jamais bouger. Autre problème, je dirais, sont les problèmes avec des prêteurs, ce sont les comment obtenir un tableau par rapport à des prêteurs privés ou institutionnels qui, finalement, n'ont pas envie de se dessaisir, et c'est le vrai problème de la collaboration, d'un chef-d'œuvre pendant 10 mois, parce que prêter un chef-d'œuvre à une étape pendant 4-5 mois, bon, d'accord, ça passe. Le prêter pendant 10 mois, et ça, c'est le problème de la collaboration, c'est l'un des risques de la collaboration, c'est plus difficile. On a eu d'ailleurs ce problème pour deux tableaux que je montre. Laurent de Médicis, ou le collectionneur particulier, pour une raison que j'ignore, ne voulait prêter qu'au Louvre. Hein, et de la même façon, Thyssen ne voulait prêter qu'à Madrid, peut-être parce que c'était à côté. Et il a fallu vraiment qu'on persuade, et je crois que jusqu'au dernier moment, en tout cas pour le petit portrait de jeune homme, jusqu'à la dernière semaine, hein, avant l'inauguration, on n'a pas su, et finalement, il est arrivé. Mais voilà, ce sont des grandes difficultés parce qu'il est difficile d'obtenir ce genre. Et la collaboration en soi peut poser un problème. Et parfois, inciter un musée, on a au moins un cas où on n'a rien eu du tout parce que 10 mois, c'était trop. Autre problème, bien évidemment, c'est comment emprunter des œuvres qui ont 500 ans et qui sont donc dans un état de conservation parfois très délicat. Anna y reviendra, mais on a l'un des grands regrets, c'est quand même la Madone au chat de Naples, qui, je pense, aurait pu être prêtée si elle avait été en bon état, parce que c'est pas un chef-d'œuvre, enfin, c'est un tableau important, mais c'est pas une image qui est partie de l'identité du musée de Capodimonte, et c'était vraiment essentiel de le confronter à la perla, mais malheureusement on a échoué face à cela. Autre problème aussi, c'est comment emprunter des tableaux qui passent pour des Raphaël, mais lorsqu'on est convaincu, lorsque notre travail qu'on l'emmène, on pense qu'il ne faut pas le présenter sous le nom de Raphaël. Donc c'est délicat, évidemment. Là, il s'agit d'un tableau en plus en main privée. Mais prêté, enfin, de façon permanente, présenté à Édimbourg, un tableau très célèbre. Mais effectivement, nous souhaitions le présenter pas sous le nom de Raphaël. Et là, on a été face à un mur. On vous le prête, d'accord, mais uniquement si vous écrivez dans le catalogue et vous le présentez dans l'exposition comme un Raphaël. Et donc, on a dû renoncer à ce prêt qui était pourtant, enfin, c'est un très beau tableau, très intéressant, et qui aurait pu vraiment permettre, je crois, d'enrichir beaucoup notre parcours. Vous dire aussi, je voulais dire deux mots quand même, parce que malgré tout, les collaborations se jouent toujours aussi dans un contexte de concurrence. On a organisé une première grande réunion réunissant les grands spécialistes en 2007. Ça a été très sympathique, tout le monde s'embrasse, bravo, formidable, on est très heureux pour vous. Et en même temps, évidemment, quand les gens reprennent leur avion, ils se disent, mais pourquoi je n'en ferais pas une, moi aussi, exposition Raphaël, finalement? Ils la font en 2012, moi aussi, je pourrais la faire en 2012. Et donc, effectivement, on a eu à vivre ça, c'est-à-dire la multiplication. On a eu quand même 3 projets qui sont nés de collègues invités à cette journée. Là, je ne donnerai pas leur nom, mais je crois que, voilà, il faut savoir aussi, on s'était posé la question, est-ce qu'on annonce notre collaboration? En même temps, ne pas l'annoncer, c'est prendre le risque de ne pas avoir de pas être aussi fort. On a pris ce risque, mais on a connu certains problèmes, et le plus célèbre, ça a été cette exposition, mais qui était, ma foi, très belle aussi, mais à Dresde, hein, cette comparaison entre la Madone de Foligno, qu'on aurait quand même bien aimé avoir, et que le pape a emporté dans ses bagages lorsqu'il est parti en voyage diplomatique en Allemagne. Et donc le tableau a été présenté à côté de la Madone de Dresde. Voilà, une présentation qu'on aurait souhaité avoir pour notre ex. Je crois qu'il y aurait beaucoup enrichi le propos. Bref, voilà. Donc, le genre de problématique qui se pose. Hein. Cette image, pour vous parler donc des vrais problèmes, des enjeux aussi qui se sont joués entre nous. Collaboration, on a essayé, je crois, de faire le maximum pour se prêter tout ce que l'on a pu. Mais il y a un moment où on est obligé quand même de s'arrêter. Il y a un moment où ça n'est plus possible pour des raisons de conservation. Et effectivement, l'exposition au Prado et au Louvre ont été un peu différentes parce qu'il y a des impossibilités. La Transfiguration du Christ, qui est une très très belle version d'atelier qui permettait vraiment de faire un très beau dossier autour de ce tableau, ne peut pas voyager, elle ne peut même pas sortir de votre salle, elle ne pouvait même pas être dans l'exposition elle-même. Et nous, de la même façon, On a tout prêté sauf ces deux tableaux, la Sainte Marguerite et le Saint Jean-Baptiste, qui sont des tableaux qui sont en soulèvement permanent dans nos salles, sont d'anciennes transpositions, mal faites malheureusement au XVIIIe siècle. Heureusement, ce ne sont pas les tableaux les plus importants. On a pu vous prêter d'autres transposés, ce qui est là aussi un vrai problème. Je crois qu'Aline y reviendra peut-être un peu. Ça a été un problème, vraiment, de se partager, enfin, de s'envoyer nos collections. Et je crois qu'Anna aussi a eu très peur quand elle a envoyé la Perla au Louvre et elle n'a pas envie de reconnaître ça dans sa vie, je crois. Oui, donc je vous montre, voilà, c'est un petit peu ces différences qu'on a dû adapter à partir d'une liste de prêts idéales qui était au départ et qui peu à peu a été transformée, les refus de certains, d'autres enrichissements qu'on a développés, la réflexion sur les dessins préparatoires. Au départ, on n'était pas tous d'accord pour avoir des dessins. Finalement, l'idée s'est imposée que si on voulait vraiment traiter bien l'atelier, il fallait qu'il y ait des dessins préparatoires pour montrer les étapes du processus de création et de créer des dossiers un petit peu autour des tableaux. Alors, il y avait un très beau dossier autour de la Transfiguration qui n'était pas du tout présent au Louvre. Bien évidemment. Un très beau dossier en revanche sur la grande Sainte Famille de Raphaël Chénoux avec un ensemble vraiment très 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 beau de dessins. Là aussi, c'est l'un des problèmes de la collaboration. Il faut bien les dessins, généralement, on ne peut pas les avoir pour plus de 3 mois. Certains font certaines exceptions et les prêtent pour 2 étapes, mais généralement, on a eu des refus évidemment pour les 2 étapes, donc il faut faire un choix. Là encore une fois, je dirais, la bonne entente entre nos deux musées a fait qu'on a pris la meilleure décision, je crois. Les tableaux qui appartiennent au Prado ont les dessins préparatoires en lien avec ces œuvres-là. Et les tableaux du Louvre, on a eu les dessins préparatoires pour avoir vraiment des dossiers. Et ça s'est révélé être un partage finalement assez équitable. Alors l'autre problème évidemment qui arrive rapidement, la liste se perfectionne et il faut en venir à la scénographie. C'est là, je dirais, une vraie difficulté parce qu'on essaie d'avoir la liste commune, la plus commune possible, mais malheureusement nos espaces sont extrêmement différents. Le voilà en haut, vous avez l'espace du Prado et en bas celui du Louvre. Alors peut-être 2 mots, Anna, j'espère que je ne me trompe pas, c'est bien Jesús Moreno qui avait fait la scénographie, c'est ça, du Prado. Au Louvre, c'était une chose un petit peu particulière, différente, je crois, du prochain projet. Il y avait eu un appel d'offres et donc c'est Vincent Cornu qui avait obtenu la scénographie de cette exposition, mais en lien bien évidemment avec le service de muséographie du Louvre. Et je sais que Michel-Antoine Pietri a beaucoup travaillé aussi à ce projet-là, parce qu'on a besoin vraiment de professionnels qui connaissent bien, qui maîtrisent le mieux cet espace qui, je continue à le dire, mais je sais que vous avez une autre image et vous l'avez démontré peut-être mieux que nous. C'est un espace un petit peu ingrat, celui du Louvre. Je vois que vous n'êtes pas d'accord, mais bref, en tout cas, ils sont différents. On va rester sur cette idée-là, que ce sont des espaces très différents. Vous voyez ici, vous avez un espace beaucoup plus que l'on peut beaucoup plus construire. Il est beaucoup plus ouvert, celui du Prado. Il est aussi beaucoup plus récent. On peut vraiment le transformer beaucoup plus facilement que celui du Louvre, qui a cette contrainte d'avoir 4 grandes pièces réunies par des couloirs, et on a un problème de hauteur régulièrement. Dans les parties centrales. Donc ça contraint quand même le discours. Les grands tableaux d'hôtel, on ne peut pas les mettre n'importe où. On avait des tapisseries aussi. On est obligé d'adapter notre parcours, ce que l'on veut démontrer, quand même au lieu. Alors à Madrid, du coup, l'espace qui était peut-être aussi plus ramassé était, je dirais, le choix était de concentrer un petit peu les sections. Une section très forte initiale sur les grands tableaux d'hôtel. On est entré immédiatement dans le vif du sujet. Une très belle section, très ouverte aussi. On pouvait vraiment comparer toutes les œuvres. Une section là aussi, je dirais, très très fournie autour du thème des madones et des tableaux de dévotion privée, de plus petits formats, qui permettaient là aussi d'avoir une vraie confrontation d'ensemble. Et enfin, une section là, partagée en 2 sous-sections, sur les dernières années, après la mort de Raphaël, et une section de très belle section de portraits. Au Louvre, c'était un peu différent parce que l'espace est plus grand et finalement, on a dû être contraint en fait à ajouter des sections par rapport à l'étape de Madrid. Section qu'on a créée, en fait, qu'on a construite à partir de nos collections. Une petite section d'introduction sur la jeunesse de Raphaël. On a la chance d'être très riche, donc on avait montré un petit peu pour le grand public, ça avait aussi une sorte de rappel de ce qu'était Raphaël avant le grand Raphaël romain. Et puis des sections sur les grands décors qui n'étaient développés qu'à partir d'une tapisserie et que nous on a développé à partir des dessins préparatoires aux fresques des stanze, des chambres du Vatican. Et on a développé aussi une section sur les tapisseries, donc de la chapelle Sixtine. Alors après, évidemment, voilà, il est affaire, je dirais, de dispositions assez différentes les unes des autres. à Madrid, il y a vraiment eu le jeu dans la scénographie de présenter la première section très forte sur les retables, avec un plan qui rappelait un petit peu l'espace sacré d'une église, avec une couleur des murs aussi qui voulait jouer, ces murs très clairs d'un sanctuaire. Au Louvre, je dirais que c'était peut-être plus classique, avec vraiment l'idée d'une exposition temporaire, et jouer plutôt sur les couleurs, entre les bleus, un jeu de bleu et de terre, avec de subtiles variations entre les deux. Donc il y avait quand même beaucoup de points communs, malgré les différences de scénographie, d'espace, des points communs. Il y avait ces groupes qui étaient communs, les portraits aussi, bien évidemment. On a eu là donc des sections qui finalement se ressemblent à peu près, en dehors de la différence de mise en place et d'accrochage, hein. Et puis quand même des différences, je crois, mais là qui sont liées, mais c'est aussi ça, une collaboration. Après, chacun un peu je sais que Miguel et moi, de mon côté, on a chacun un petit peu transformé l'exposition à partir du catalogue d'une façon un peu plus personnelle, et c'était finalement bien d'avoir deux choses très différentes. Ça, c'est devenu du coup complémentaire, voir les deux expositions avaient du sens l'une après l'autre. À Madrid, c'était l'occasion justement d'avoir tous ces tableaux de dévotion réunis dans un même espace et de pouvoir les confronter mieux. À Paris, on a au contraire joué le jeu finalement on a vu tout réuni à Madrid. À Paris, séparons ces tableaux, essayons de jouer le jeu du catalogue, de l'attribution à ses élèves, à Giulio Romano et Peigny. On a créé donc des salles dédiées à ces artistes-là, et c'était l'occasion aussi de voir si ça tenait vraiment bien, plus ou moins bien. On sait que Peigny, ça a été une salle très difficile, et que finalement c'était quand même difficile, ça tenait assez mal. On se rendait compte que ce n'était pas forcément le même artiste qui avait peint tous ces tableaux. Alors voilà, je crois que j'ai déjà un peu trop parlé. J'espère, voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire sur la façon dont on monte une collaboration, malgré les contraintes, et je crois qu'elles ont été nombreuses. Je crois que ce n'est pas très humble, mais je suis très heureux de cette collaboration, et je crois qu'on a vraiment réussi à faire une noble collaboration, avec un catalogue en plus commun, partagé, ce qui est rarement le cas, parce que souvent les différences scientifiques sont tellement fortes qu'on a des catalogues différents. Là, on a un catalogue qui est le même, et qui est vraiment le fruit de 5 années de travail main dans la main, hein. Et c'est, je crois, vraiment le secret de cette une entente humaine et aussi une vision scientifique très, très, très proche.